Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Les quatre associations, la Fondation Copernic, l'Université Populaire de Toulouse, Attaque, Antenne de Toulouse et les Amis du Bon Diplomatique, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette soirée consacrée à l'aéronautique au sens large du terme. C'est une soirée un peu particulière parce que on va aborder deux sujets qui touchent à ce thème avec deux entrées assez différentes. La première entrée, on va vous parler du retour que peuvent faire un certain nombre de personnes ici présentes d'une initiative qui s'est tenue sur la Haute-Garonne à l'initiative du préfet Guyot à l'époque qui s'appelle l'atelier des territoires, qui a été consacré à l'avenir de la plateforme aéroportuaire de Toulouse-Blagnac. Donc les quatre associations vont vous faire un retour, etc., sur cet atelier du territoire auquel elles ont participé. Les associations, c'est l'Union des comités de quartier, c'est la France Nature Environnement, Midi-Pyrénées, le collectif PAD et l'Union des comités de quartier.
Non, et le CNAT.
Et le CNAT.
Que t'as passé.
Moi, Chantal va me faire la gueule. Le collectif contre les nuisances aériennes de l'agglomération toulousaine. Donc, première partie de la soirée sera consacrée à ce retour qu'on veut public sur l'atelier du territoire auquel nous avons travaillé pendant pratiquement 9 mois, une petite année. Et la deuxième partie de la soirée sera consacrée pour faire un bilan du collectif Pensons l'aéronautique pour demain. Collectif qui a été créé ici, au Bijou, de fait, hein, il est né un peu au Bijou, le 16 juin 2020, vous vous souvenez, il n'y avait plus d'avions dans le ciel, enfin, etc., c'était la période Covid, et un ensemble de gens s'étaient réunis pour faire le point sur la situation de l'aéronautique et de l'aérien à Toulouse dans ce contexte-là, et de là est né ce collectif PAD, qui aussi va, peut-être à travers ses représentants, Bruno qui est ici, Jougla, mais aussi Maxime Léonard, la CGT de l'aéro, qui va nous rejoindre, il est un peu à la bourre. On parlera du PAD. Et après, bien évidemment, ces deux cadres ou ces deux interventions, nous parlerons des choses. Pour la soirée, on a demandé à Gaël Serres de Médiacité de venir jouer les médiateurs, les passeurs de plats, tout ce qu'on veut. La présence de Gaël n'est pas tout à fait anodine, d'abord parce que Médiacité est un média local qui... donne la parole à des gens comme nous, ce qui n'est pas le cas de tous les médias. Et que deuxièmement, Gaël avait lui-même déjà animé la soirée d'il y a 3 ans, ici au Bijou, le 16 juin 2020, où on avait mis sur les fonds baptismaux ce fameux collectif Pensons l'aéronautique pour demain. Donc voilà un peu. Alors, on va attendre tout à l'heure que Maxime Léonard nous rejoigne. Et maintenant, eh ben, je me rassieds, je passe la parole à Gaël Serrez.
Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je ne vais pas la prendre très longtemps parce que ça m'a beaucoup mâché le travail. Effectivement, on va enchaîner directement par cet atelier du territoire. Donc, qu'est-ce que c'est l'atelier du territoire? C'est un espèce de gros machin, de grosse concertation qui a lieu depuis 2022 à l'initiative du préfet Étienne Guyot. L'idée, c'était de se réunir au maximum de personnes pour réfléchir à l'avenir de la zone aéroportuaire au sens large. Il y avait une trentaine d'acteurs et une quarantaine de représentants dans les ateliers qui ont duré à peu près 9 mois, une gestation, et qui ont été dont la conclusion a été rendue la semaine dernière. Et voilà, on va vous expliquer tout ça. Peut-être pour éviter que je parle beaucoup, parce qu'après tout, moi, j'ai pas beaucoup de choses à vous apprendre. L'idée, c'est de faire parler les personnes qui ont le plus participé à ces débats. Est-ce que qui d'entre vous veut raconter un peu comment ça a été présenté, enfin comment c'est né au début cet atelier du territoire?
Je vais démarrer. Ouais.
Guillaume Brijard de
l'Union des comités de quartier. Alors, l'atelier des territoires, déjà, il faut savoir que c'est un dispositif qui existe au niveau national. Il y a sur certains sujets, ça peut être sur le développement de l'agriculture périurbaine, ça peut être sur différents sujets comme ça. Il y a un appel à projet qui est lancé par l'État auquel des collectivités peuvent répondre. Ça peut être à l'échelle de quelques communes ou un territoire beaucoup plus vaste. Et si le projet si les collectivités sont retenues, l'État met des moyens pour qu'il y ait un accompagnement, pour une réflexion sur l'aménagement d'un territoire versus transition écologique. Comment on arrive à avoir un projet de territoire qui soit dans l'optique d'une transition écologique. Donc il y a ces appels à projets qui sont sur des thématiques précises. Et là, l'atelier du territoire sur la plateforme aéroportuaire de Toulouse-Blagnac est un peu hors norme. C'est-à-dire que c'est pas dans le cadre d'un appel à projet classique. C'est face au problème qu'on a à Toulouse, avec cet aéroport qui est, avec les avions qui survolent 100 000 habitants. On a un aéroport très particulier en France, avec un collectif contre les nuisances aériennes qui se bat beaucoup, avec des situations dans les relations avec l'État, notamment sur les documents réglementaires par rapport au plan d'exposition au bruit, les règles de construction, par rapport à l'idée d'interdiction des vols de nuit. On arrivait presque à une situation de blocage dans les discussions avec l'État, dans les instances auxquelles on participe, au point que ça allait se gripper. C'est-à-dire qu'il y a eu une réunion à laquelle on avait participé, une commission consultative de l'environnement sur l'aéroport, où on est sorti de la salle, les associations. Donc le collège association.
À quelle date ? 15 octobre 2019. Voilà. Vous allez en causer, donc voilà. C'est super.
Et hein. Ce collège association a décidé, toutes les associations représentées, de quitter la salle, tellement le dialogue était compliqué pour évoquer une réduction du trafic et des nuisances. Donc, en fait, le préfet s'est dit, on ne peut pas rester, nous, c'est comme ça qu'on l'a ressenti, que ça, même la préfecture nous l'a expliqué, il ne peut pas rester dans cette situation bloquée, il faut ouvrir le dialogue sur ce sujet, on a un dispositif, l'atelier des territoires, on a des moyens, on a un cabinet Alphaville qui peut nous accompagner pendant un certain temps, organiser toutes les choses. Et ils se sont mis à rassembler tous les collectivités, les acteurs économiques, les acteurs associatifs pendant un certain temps pour un projet de territoire sur la plateforme aéroportuaire. Alors pour nous, au début, c'était très bizarre. Union des comités de quartier, on sait très bien que quand on est sur la colline de Pêche-David, ou quand on descend vers Croix-de-Pierre, ici, ou quand on se situe plus vers Cornebarieux, vers Merville, vers Lara, où les avions passent aussi, on a des territoires qui sont complètement différents. Donc comment imaginer un projet de territoire sur des choses qui sont tellement différentes, mais avec un point commun, c'est le rapport entre le sol et l'air, que tous ces territoires sont survolés par les avions. Et alors comment, du coup, ça a été un objet au début où on a eu beaucoup de difficultés à dialoguer entre les différents participants. Il y avait ce qu'ils ont appelé un G40, un groupe de 40 représentants où on s'est réunis, le noyau un peu dur de la démarche. Mais au début, en fait, on savait pas de quoi on allait parler.
Il y avait un objectif, justement, quand on vous a invité à participer à ça ?
Pas d'objectif. Comment imaginez-vous l'évolution des territoires versus transition écologique, mais sans qu'on connaisse les limites du territoire, sans qu'on sache si on discute. Alors, tout de suite, on s'est rendu compte qu'il y avait deux objets. Il y avait l'aéroport avec le trafic aérien et les zones survolées par les avions. Donc ça, c'était un objet bien particulier avec les riverains qui sont survolés, avec les problématiques habituelles. On ne peut pas tout d'un coup déplacer les avions et des gens qui avaient une maison et qui tout d'un coup se retrouvent survolés des avions, c'est inadmissible, à moins qu'il y ait des dédommagements, que ça soit discuté préalablement, parce qu'il y a des changements de trajectoire. Là, le collectif contre les nuisances aériennes en parlera mieux. On a eu des questions de droit à construire sous le plan d'exposition au bruit des avions. Et il y avait un deuxième objet qui était l'aéronautique. L'aéronautique, Airbus, toute la sous-traitance, où là, du coup, la réflexion immédiatement est à l'échelle régionale. Pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas ? Ben, Albi, il travaille sur l'avion vert. Pourquoi est-ce que le développement de l'avion hydrogène, ça ne se passerait pas près des mines d'Albi, où ils ont un problème de recherche là-dessus ? Est-ce qu'il ne faut pas aller aussi réfléchir à Castres, là où ça manque, à des endroits où ça manque d'emploi ? Si on raisonnait emploi et aéronautique, tout de suite, on était sur un territoire différent. Donc c'était un peu compliqué, l'objet même de ce sur quoi on discutait, c'était pas clair au début. Et au fil du temps, on a vu ces deux choses un petit peu séparées qui étaient le trafic aérien, son incidence sur l'agglomération, la grande agglomération toulousaine, et l'activité aéronautique. Est-ce que ça a un sens, qu'elle continue à se développer sur place, à chercher encore à s'étendre sur place, ou est-ce qu'il ne faudrait pas, au contraire, un desserrement économique? Donc c'est ce genre de sujet qu'on a commencé à discuter.
Avant de rentrer sur les thématiques qui étaient peut-être oubliées au point de départ, est-ce que l'un d'entre vous, Éric Laviol, peut-être nous dire à la salle qui participait, enfin juste la liste pour que tout le monde ait bien en tête les participants?
Ben là, on avait des représentants de toutes les collectivités territoriales, région, département, Toulouse Métropole, les communes environnantes de Toulouse, et notamment et surtout celles qui sont dans les axes des pistes. Donc je pense à Cronobarieux, à Dox, Merville, et au sud il y avait Vieille Toulouse, Pêche-Busque, enfin voilà, toutes ces collectivités. Ensuite il y avait des représentants du monde du travail, donc des syndicats. Il y avait le MEDEF. Il y avait la chambre de la CCI, la chambre d'agriculture, mais on les a pas vus. Ils étaient invités, mais on les a pas vus.
Tisséo
a brillé par son absence, effectivement.
Ils étaient invités.
Et ils étaient, sur de nombreux sujets, des interlocuteurs quasi incontournables. Tous les sujets de mobilité, notamment. Tisséo n'était pas là. Bon. Et ensuite, il y avait les représentants de la société civile. Nos quatre associations, donc le CCNAT, le PAD, l'UCQ et France Nature Environnement. Donc il y avait une représentation quand même assez aussi. Large.
Comment? Et deux autres représentants de la société civile.
Césaire et CODEV, effectivement, mais qui ont déjà un peu une forme institutionnelle. Mmh. Mais effectivement, ils étaient présents. Donc voilà, donc c'était vraiment un plus, bien sûr, les représentants de l'État, donc la préfecture, avec le représentant du préfet Guyot, et l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, qui étaient un peu les garants et les animateurs sous l'autorité d'un cabinet spécialisé dans l'animation de ce genre d'atelier. Voilà pour répondre.
Et alors du coup, tout ce monde réuni pour parler développement économique et développement urbain, c'était quoi les thématiques qui vous tenaient à cœur et que au début, qui n'étaient pas a priori abordées?
Alors, bon, moi, enfin, j'allais dire, pour France Nature Environnement, donc nous, on est une fédération environnementaliste, donc moi, j'étais le représentant de France Nature Environnement Midi-Pyrénées, on est 130 associations, 7000 adhérents en tout. Bon, c'est vrai que j'ai passé mon temps à rappeler certains éléments que nous souhaiterions incontournables dans ce débat. Je vais vous en donner quelques-uns. Le rappel, par exemple, des fameuses limites planétaires dont vous avez peut-être entendu parler. Bon, ben, il y en a six qui sont atteintes déjà. Là, je vous renvoie à des conférences, notamment à la conférence d'Arthur Keller, qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps sur Toulouse. Notamment, quelles limites ont été dépassées? La limite climat, la limite planétaire climat, la limite sol, la limite eau verte, la limite pollution et la limite diversité géologique. Donc, vous voyez déjà, j'en ai cité 5, sur les 9 limites planétaires, on a déjà 6 limites qui sont dépassées. Ensuite, l'urgence climatique. On est quand même dans un temps d'urgence climatique avec une neutralité carbone que l'on doit absolument atteindre en 2050 pour éviter une explosion des hausses de température. Ensuite, l'urgence au niveau des sols. Et là, c'est un des thèmes de base de nos débats, de nos échanges. Donc l'urgence au niveau des sols concernant leur artificialisation, leur imperméabilisation et bien entendu leur utilisation agricole qui malheureusement peut entraîner des pollutions, notamment au travers des pesticides. Et enfin, dernier point sur lequel je passais mon temps à rappeler les choses, c'était l'urgence au niveau de la biodiversité. Et je vous donne juste un chiffre. Moins 70% en matière de biodiversité en 50 ans. Et pour les insectes, moins 80% en 30 ans. Moins 80%. Si ça, c'est pas l'urgence, je ne sais pas ce que c'est. Donc, moi, en fait, et je parle sous le témoignage de mes collègues, mais en gros, je passais mon temps à recentrer en disant « Oui, mais attendez, vous défendez tel projet, telle évolution, telle croissance, telle attractivité de la métropole. » Très bien. Mais est-ce que vous avez intégré tout ça ? Est-ce que vous avez intégré l'urgence climatique, l'urgence biodiversité, etc. Voilà. Voilà donc un petit peu, moi, le rôle que j'avais. Et c'était pas simple parce que, honnêtement, à part nous, sur ces thèmes-là, il n'y avait pas beaucoup d'intervenants qui ramenaient le sujet là-dessus.
Chantal Berdemander, qu'est-ce que vous allez amener à la table des discussions ? Quelle était votre spécificité, votre cheval de bataille ?
Alors, vous savez que les riverains ne sont pas là pour dire qu'ils n'aiment pas les avions. Ils sont là pour dire que l'avion fait du bruit, que l'avion participe à la pollution et participe aussi au réchauffement climatique. Et à Toulouse, il se trouve qu'on vient de passer une période où on a eu, et là je suis obligée de citer des noms, un secrétaire général qui s'appelait Denis Aulagnon en 2019, fameux 15 octobre 2019, relativement incompétent et très détestable, qui refuse en réunion quelque chose qu'on lui demandait et que le département, la région, le Sicoval et les riverains demandaient, lancement d'une étude sur un possible couvre-feu. On n'allait pas très loin. Hein. Lancement d'une étude sur un possible couvre-feu entre 23h30 et 6h dans le cadre de l'approche équilibrée. Et là, il dit non. Il dit non une fois, deux fois, dix fois. Les élus lui demandent, mais pourquoi, etc. On passe à un autre sujet, etc. Donc, on claque la porte, on s'en va, etc. Bon, très bien. Première grosse boulette. Ensuite, le Covid. 2020-2021, Monsieur Aulagnon s'occupe de ses petites affaires. Et on reprend. En mardi 1er mars 2022, 5h30 de débat en commission consultative de l'environnement. Et là, il se fait le porte-voix du MEDEF et nous dit qu'il approuve le plan de prévention de bruit dans l'environnement dans lequel il n'y a rien qui puisse réduire le bruit, alors que nous apportons la preuve qu'il y a une augmentation de 73% de personnes, de populations impactées depuis 2010. Donc, on a vraiment une situation explosive. Là, le préfet Guyot se dit « aïe, ça va mal ». C'est ce qu'expliquait Guillaume, voilà. Et donc, alors, je ne veux pas dire que c'est ça qui a déclenché l'atelier des territoires, mais je pourrais dire que je pense que c'est ça qui a déclenché l'atelier des territoires. C'est que donc, ils s'aperçoivent que s'ils veulent continuer à faire voler des avions, il va quand même falloir avoir l'assentiment de la population, et là, ils sont en train vraiment de la perdre. Et Airbus aussi, ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont. Donc, on a ça. Monsieur Aulagnon va s'occuper des ours en Ariège. Il y reste pas très longtemps, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Et nous, on nous nomme un nouveau secrétaire général de la préfecture, Serge Jacob. Et là, bah, ça change. Nouveau secrétaire. Il répond à nos mails. Il tient compte de nos avis. On lui demande un rendez-vous. Il nous l'accorde.
Il exige des réponses de l'aéroport.
Bref, moi qui donc grenouille dans tous ces milieux-là depuis 25 ans, je dirais que c'est le premier qui apparemment a l'air de correspondre à ce qu'on attend d'un secrétaire général de la préfecture, d'un représentant de l'État. Il est honnête, il vient de l'armée, il aime les choses droites. Bon, apparemment, voilà. Donc, je ne vais pas dire que c'est un saint, hein, mais bon, donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup dans cette histoire, des histoires de personnes. Hein, et c'est pas rien. Alors, après, comment vous l'avez senti ? C'est ce que, la question, hein, Gaël. Alors, c'est un exercice auquel je ne me livre pas souvent parce que moi, je suis une militante, je parle de la santé, j'ai plus besoin de vous convaincre que bah, le bruit des avions sur la santé est délétère, etc. Parce que vous le savez tous, vous avez tous lu, bien sûr, l'enquête épidémiologique d'EBA qui dit qu'effectivement, le bruit des avions a des effets néfastes sur la santé. Donc, j'ai plus besoin de vous le dire tout ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ces ateliers du territoire ? Ça a été parfois, pour nous, de la part d'un certain nombre de personnes, une entreprise de séduction. On a essayé quand même, à certains moments, un petit café furtif aux bijoux. Allons, avec le MEDEF. Quand même, hein. Ça, j'aurais pas pensé ça. Hein.
Une première.
Une grande première. Après, petite visite à Airbus. La dernière remontait au 21 septembre 2001, être le jour de l'explosion de la ZF. D'ailleurs, on n'est pas quand même à journée faite chez Airbus. Petite tentative de séduction. On a quand même eu souvent dans cet atelier l'affirmation de la toute-puissance d'Airbus. Ça a quand même été assez prégnant. Mais ils ont quand même à certains moments su s'effacer. Qu'est-ce qu'ils ont permis, ces ateliers? Ils ont permis la rencontre entre des univers qui se côtoient relativement peu. Alors, je prendrai juste un exemple. C'est le jour où on a fait visiter donc à toutes ces personnes, on était en quart, les quartiers notamment de Bagatelle. Je pense que certaines personnes, notamment des membres d'Airbus ou d'autres mairies d'ailleurs, n'étaient jamais rentrées dans ces quartiers. Menée de main de maître par Christian Gutiérrez, c'était super.
Qui est Christian Gutiérrez?
Qui est un des membres de ce groupe et qui est membre de l'association de Papus Tabar Bordelon. Donc des quartiers les plus survolés, les plus peuplés, qui ont, eux, la pollution de la rocade et la pollution des avions. Donc eux, ils ont quand même, il en manque plus que le canal. Voilà. Donc, on a vu le poids de la ville de Blagnac. Ça pèse lourd dans les discussions, puisqu'à l'atelier du territoire et au rendu, le jour de la restitution, le préfet avait à sa droite M. Karl, qui représente donc, qui est le maire de Blagnac, mais qui est aussi représentant de la métropole, et à sa gauche, Mme Sens, qui était la représentante de la région, mais qui est aussi la première adjointe de la ville de Blagnac. Première adjointe au maire. Cherchez l'erreur. Donc, poids de la ville de Blagnac. Blagnac n'a pas de nuisance, ils sont sur le côté, mais Blagnac, c'est le poids, c'est la richesse. Quand il parle, il vaut mieux se taire. Ensuite, qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis aux élus, alors je dirais timidement, de commencer à évoquer le nom tabou de couvre-feu. Alors, ils n'osent pas, ça leur donne des boutons. À Toulouse, on ne peut pas parler de couvre-feu, on en parle partout. On en parle depuis 40 ans à Orly, à Nantes, à Balmulhouse, à Beauvais, à Strasbourg. On a le droit d'employer le mot couvre-feu à Toulouse. Ça rend les gens malades, enfin ceux qui n'en veulent pas. Alors, on parle de diminution du nombre de vols, restriction, suppression des vols. Alors, on a obtenu quand même, et ça c'est quand même une grosse victoire, que le département et la métropole se déclare favorable à l'interdiction des vols commerciaux passagers entre minuit et 6 heures du matin. Ce qu'on appelle à Toulouse, puisque on est la seule ville au monde qui a un cœur de nuit. C'est-à-dire minuit, 6 heures du matin. Parce que l'Organisation mondiale de la santé, elle dit que vous devez dormir 8 heures. Donc en général, c'est 22 heures, 6 heures. À Toulouse, on a inventé le minuit, 6 heures.
Qui a inventé ça?
Ben, c'est l'ensemble des partenaires, la technostructure, CCI, Aéroport de Toulouse-Blagnac, Direction générale de l'aviation civile. C'est un cœur de nuit. Parce que vous ne dormez que pendant un cœur de nuit. Voilà. Donc, on a donc maintenant le département et la métropole qui se déclarent favorables à cette interdiction. Alors, ce n'est pas la première fois, j'ai repris là, M. Cohen l'avait déjà dit aussi il y a 10 ans. Voilà, ça revient de temps en temps. Alors, on va voir, on est déjà dans le lancement de la campagne des municipales, hein, donc ça commence à agiter un petit peu. Voilà. Alors, moi, je crois que je vous ai à peu près tout dit, ce que j'ai ressenti, hein, je ne vous ai pas fait, je vous dis, hein, dans la militance, je vous ai fait un petit peu de... Voilà.
Est-ce que c'est
Voilà.
Ouais. Couvre-feu, qui a autorité pour décider d'un couvre-feu?
Qui a autorité, ça peut être le ministre, le préfet. On peut faire aussi des protocoles d'accord, qui sont beaucoup plus locaux encore, qui seraient avec tous les partenaires. Donc il y a de multiples façons de faire, mais maintenant, depuis qu'il y a une directive européenne, depuis 2022, qui dit... Pour mettre des restrictions sur un aéroport, on est obligé de passer par ce qu'on appelle l'approche équilibrée, c'est-à-dire environ une méthode qui met de 1 an à 2 ans pour suivre tout un procédé qui aboutit à des restrictions. Des restrictions qui peuvent être, bah, on empêche les avions bruyants, on regarde sur les horaires, on fait un couvre-feu. Voilà. Et là, après, c'est le ministre qui signe. Ça, ce sera le ministre qui devra co-signer transport et environnement. Ce seront les ministres qui signeront cet arrêté de restriction sur les 10 grandes plateformes existantes en France. Voilà.
Donc, Chantal, projet équilibré,
oui,
ouais, a été lancé au deuxième. Oui, voilà, oui, je l'ai pas annoncé non plus. Oui. C'est que le deuxième scoop, c'est que l'approche équilibrée était lancée.
C'est quoi l'approche?
Alors l'approche équilibrée,
c'est l'impact. C'est le fameux process qui va permettre justement de mener des études.
D'aboutir à une éventuelle restriction.
Et d'aboutir à une éventuelle restriction.
Et ça a été annoncé à quel moment?
Au séminaire clôture.
Alors, ça a été re-annoncé parce que ça avait déjà été annoncé en 2019. Ouais. Puis le Covid arrive. Voilà. Alors forcément, les pauvres, bon, on comprend. Et là, c'est relancé. Mais c'est relancé, vrai le vrai. Hein.
Avec une date butoir ou...
Ah ben, les 16 ou 16 à 18 à 20 mois, à partir du moment où on aura eu la première rencontre. Et alors, la première rencontre ne saurait tarder. Voilà.
Alors, il y avait le gros mot du couvre-feu.
Voilà.
Il y avait un autre gros mot aussi, c'était décroissance.
Ah.
Est-ce qu'il y avait un autre, un troisième peut-être que j'aurais oublié? Un autre gros mot, non?
Bon. À ce niveau-là,
peut-être qu'on peut-être un peu les mobilités.
On entrera en troisième. Alors, la décroissance, pourquoi un gros mot?
Alors, parce que, bon, qu'est-ce qu'a fait le PAD, qui est un collectif d'associations dans cette instance? Les trois associations qui viennent d'intervenir ont une longue histoire qui dépasse les 20 ou 30 ans d'existence, avec une habitude d'aller frayer dans les milieux institutionnels, d'aller mener le combat dans les instances de tout côté. Non mais frayer avec efficacité dans certains de cas. En tout cas, on le voyait bien d'ailleurs. Chantal qui parle, elle vous parle comme ça dans les réunions face au préfet ou face à Bordiqué, elle est pareil, hein, droit dedans. Donc on voit qu'il y a une culture, une habitude de la confrontation avec les gendarmes sans rien lâcher. Alors nous, le PAD, on arrive, on est un collectif d'associations et on a vu passer dans la presse le fait qu'il allait y avoir des sortes d'états généraux de l'aéroport de Blagnac. On était quelques-uns du PAD à dire, mais ce truc-là, il faut qu'on y aille, nous, pourquoi on n'irait pas, comment ça fait qu'on n'est pas invité? On a écrit au préfet. Et puis, à notre grand étonnement, je dois reconnaître, on a reçu très rapidement un courrier du préfet disant « Bienvenue au club, nous vous intégrons dans l'atelier du territoire ». Donc, on s'est retrouvés à dire « Mais merde, il faut y aller à ce truc-là ». Donc, nous y sommes allés. Alors, nous y sommes allés avec, en fin de compte, d'abord, on ne savait pas où on allait. Claire, peut-être que déjà, mes petits collègues, là, ah, quand même, vous avez l'habitude d'aller quand même dans des instances, nous n'avions pas trop l'habitude.
Ben, ça, ils ont dit que non.
Non, ouais, celle-là était avec
oui,
une nouvelle forme, quand même.
Particulière, celle-là. Voilà. Mais via la commission consultative de l'environnement, on est
assis
sur la
table. Oui, mais là,
du coup, avec quelle thématique?
Alors, donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va amener? Mais nous, on a amené la petite musique du PAD. Et la petite musique du PAD, c'est quoi? Mais c'est de réfléchir à l'aviation aujourd'hui et demain. À la construction aéronautique. Quel est le devenir? Vous savez à quel point Toulouse est dépendante de ce secteur économique. On parlait de l'aéroport tout à l'heure, quand même, qui a la particulier d'être à la fois un aéroport commercial, hein, mais d'être aussi un aéroport industriel. Double fonction, il y en a très peu au monde, hein, qui sont à la fois un aéroport qui sert pour un constructeur et aussi pour des vols commerciaux. Et c'est 44 000 personnes qui bossent à Saint-Martin-du-Touche-Colomiers. 44 000 personnes, 24 000 Airbus, 20 000 sous-traitants. Renaud Billancourt, hein, dans les années 50 et 60, c'était 50 000 personnes. C'était considéré comme étant le poumon ouvrier de la France. Hein, quand Renault s'enrhume, la France s'enrhume. Hein, souvenez-vous de ça. Donc, vous imaginez à l'échelle d'une ville comme Toulouse que pèse Airbus, c'est gigantesque. Et donc, depuis le début, le PAD, on s'interroge là-dessus en se disant, mais s'il y avait un retournement de conjoncture, si les 3,4% de progression du trafic aérien annoncé par les constructeurs, qui vont amener au doublement de la flotte d'aéronefs dans les 25 ans qui viennent, et si ce scénario qui semble écrit à l'avance n'avait pas lieu? Parce que, par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle le réchauffement climatique, la contribution de l'aviation au réchauffement climatique. Le fait qu'il faut qu'on décélère de tous les bouts, par tous les bouts. Et puis ça ne s'est pas calmé depuis 3 ans, hein, toutes les informations qu'on a. Donc on est allé à cet atelier, nous, pour faire entendre cette musique-là, en disant, on veut qu'aujourd'hui, autour de l'aéroport,
la technostructure économique, politique et sociale toulousaine s'interroge sur le devenir de l'aviation et de la construction aéronautique à Toulouse dans des scénarios autres que ceux imposés par Airbus.
Et comment elle le prend, ça?
Et alors là, alors première chose, quand vous dites le mot décroissance, c'est un peu comme Chantal avec la couvre-feu, ils ont des vapeurs, hein. Mais ça continue, hein, parce que lors de la restitution de la TV du territoire le jour à la préfecture où nous étions, la représentante de la région, qui est aussi une élue Blagnac, a dit qu'elle intervenait au nom de Carole Delga et l'a redit au moment où elle a dit « La présidente de région tient à ce que tout le monde comprenne bien que la région est contre la notion de décroissance. » D'accord ? Elle en a rajouté une couche. Alors qu'on avait réussi tout au long de l'atelier à installer ce mot de décroissance ou ce mot de « Il faut parler du trafic aérien et de sa régulation, est-ce qu'on a besoin d'autant voler ?» Enfin, on avait réussi à instiller un peu cette réflexion-là dans les débats. On a eu l'impression d'un couperet qui tombe du côté de la région. Donc le rôle du PAD dans cet atelier du territoire, ça a été justement, et on s'est réparti les rôles avec nos petits camarades, de beaucoup insister là. On a beaucoup demandé en disant « Mais on veut que, puisqu'on est là pour réfléchir à un futur désirable, hein, construire ensemble un futur désirable, pour la plateforme aéroportuaire, qu'on étudie des scénarios qui soient, pourquoi pas, le scénario d'Airbus de 3,4% de croissance du transport aérien et donc des milliers d'avions fabriqués, puis peut-être les scénarios de dire, et si c'était, comme le disent par exemple les enseignants-chercheurs de l'ISAE SupAéro, qu'il y avait peut-être des choses qui faisaient que peut-être qu'on va se diriger plutôt vers une diminution de 10% du transport aérien dans les d'ici 2050 par rapport au chiffre de 2019, j'entends. D'accord ? Parce que peut-être qu'on n'aura pas assez d'électricité pour fabriquer l'hydrogène. Ou à moins d'avoir des centaines de centrales nucléaires pour le faire. Peut-être qu'on va avoir une concurrence pour fabriquer des biocarburants entre les terres arables et celles qui pourraient servir justement. Est-ce qu'on aura assez de déchets ménagers ou d'huile de chez McDonald's pour fabriquer des carburants durables ? Toutes ces questions-là, on a essayé de les insérer dans le débat. Au début, il faut être clair, on a été regardé, moi particulièrement, parce que j'étais celui qui portait la chose, comme un vilain petit canard et quelqu'un qui vraiment. On doit reconnaître qu'avec le temps, on a réussi à installer le mot dans les échanges. D'accord ? Il ne faut pas dire qu'on a gagné. Mais on a réussi à faire que ce mot soit encore pour certains un gros mot, mais ne soit pas quelque chose qui nous déqualifie d'emblée, qui était le cas au début. Donc, à ce niveau-là, on peut dire. Après, le chemin nous semble encore terriblement long pour qu'à Toulouse, et là, je sors de l'aéroport, parce que ce qui est concerné derrière ça, c'est l'ensemble, ce que j'appelle, moi, la technostructure politique et économique toulousaine, qui fait front, hein, pour qui Airbus et la construction d'avions, c'est le poumon de la ville, c'est son devenir, c'est son avenir total, qu'on puisse dire, et si le scénario n'est pas celui qui est prévu, qu'est-ce qu'on fait ? Comment la ville peut se préparer, l'agglomération, la région, peuvent se préparer à un scénario qui ne serait pas celui-là ? Parce que si on ne se prépare pas, les conséquences vont être terribles. Hein ? Et donc, voilà, on a essayé de faire passer ce genre de choses.
Alors, ce mot, il a été accepté, enfin, au moins, on pouvait sans l'évoquer. Est-ce que sur vos autres thématiques, vous avez senti une évolution aussi des échanges avec des possibilités de discussion ? Guillaume Drigeard, peut-être
Alors, pour revenir sur la décroissance, si Mme Sens est intervenue au nom de Mme Delga pour dire on ne peut pas entendre parler à la région de décroissance, c'est bien que vous avez fait tout ce chemin. C'est aussi un signe que le discours que vous avez tenu au PAD a percolé, hein, au niveau d'un certain nombre d'acteurs. Et, alors, sur
on n'a pas parlé que de décroissance. Hein, je dis.
Après, on n'était pas, ce qu'il faut avoir conscience, c'est qu'on n'était pas du tout dans une position radicale. C'était ouvrir le débat sur la décroissance, ouvrir cette porte pour avoir une vision à 2050. C'était pour le trafic, c'était pas interdire le trafic aérien, c'était préserver la nuit. On n'était pas, c'était pas interdire les vols d'essai, même que les vols de fret commercial éventuellement pour Airbus la nuit, ça se discute. C'était pas, on n'était pas dans des positions radicales non plus. Parce qu'on essayait aussi de sonner la sonnette d'alarme pour dire, mais nous, on est quand même dans le dialogue, à essayer de discuter ensemble pour poser les différents enjeux, mais il y a des gens beaucoup plus radicaux que nous. Si vous n'arrivez même pas à discuter avec nous, qu'est-ce que ça va donner pour la suite ? Qu'est-ce que ça va donner ? Et bon,
est-ce que justement vous avez senti que les arguments portaient oui.
Alors il y a un sujet, il y a des sujets sur lesquels on sent que ça a avancé. Alors, bah, sur les mobilités, voilà. Il y a d'énormes problèmes de mobilité pour l'accès à la zone aéroportuaire, parce que on a, par exemple, la visite d'Airbus, on leur demande, mais vos salariés, ils habitent où? Et en gros, on découvre que les 20% de col blanc, quand la carte bleue, enfin bon, bref, eux, ils habiteront peut-être au centre-ville, donc peut-être que la troisième ligne de métro, ils seront intéressés. Mais qu'il y ait une station devant Airbus de métro, les 80% des salariés, des gens qui travaillent, que ce soit en emploi direct ou indirect, eux, ils sont en périphérie. Ils sont en périphérie vers le nord, vers le nord-ouest, vers l'ouest. Donc eux, la troisième ligne de métro, ils vont avoir une station devant, comment ça leur sert à absolument rien. Donc les questions de mobilité ont été un gros sujet, notamment pour réussir à passer la Garonne, ça a été... On sait qu'il manque des ponts sur la
Garonne. Le cinquième pont sur la Garonne est revenu avec un problème qui... J'interviens juste une seconde, un vrai problème qui est un cas d'école.
C'est ça.
Si on fait un cinquième pont sur la Garonne, au niveau de Grenade, de ce coin-là, on va avoir le problème éventuel de l'effet rebond. C'est-à-dire qu'en voulant résoudre un problème, en disant on va faciliter la circulation automobile, au lieu d'aller vers un effet de stabilisation ou d'amélioration, on va avoir une augmentation de la circulation automobile permise par ce pont. C'est le fameux effet rebond qui est connu dans beaucoup d'autres secteurs. Et donc ça, une des inquiétudes que je peux avoir après cet atelier, c'est que ça a remis cette histoire du cinquième pont sur la Garonne au cœur des discussions.
Et en même temps, avec un débat, ça peut être un pont pour les modes actifs et pour les transports en commun, pour se relier au futur. Aménagement ferroviaire du Nord Toulousain aux gares supplémentaires à l'amélioration de la desserte ferroviaire. Donc on entrait dans le débat, le vif du débat. Est-ce qu'on fait ça pour du routier ou est-ce qu'on fait ça, mais comme Tissot a été toujours absent, on n'a pas pu l'aborder, mais on a senti qu'il y avait beaucoup de collectivités qui étaient ultra demandeuses d'aborder cette thématique. Et après il y avait des... Après on a senti aussi que chaque commune avait ses problématiques. Certaines communes, ils ont un risque d'inondation qui font qu'ils ne peuvent pas beaucoup bâtir, il y a le plan d'exposition au bruit du trafic, ils ont plus de possibilités, et en même temps, on n'arrête pas, les maires n'arrêtent pas d'avoir des demandes pour construire de l'habitat, parce que les gens ils veulent se rapprocher de la plateforme aéroportuaire, etc.
D'accord.
Donc on, que là, il y avait beaucoup de communes qui étaient très contentes qu'on puisse partager État, DDT, les intercos, de partager et... Sauf qu'on n'a pas pu parler mobilité avec eux parce que Tissot était absent, mais essayer de partager pour avoir un peu une vision de comment on améliore déjà l'existant. Ce n'était pas une réflexion sur l'avenir, est-ce que ça doit se développer, ou là il y avait un leitmotiv, de toute façon la croissance, on ne veut pas y toucher, donc là c'est une bataille en soi, mais il y avait déjà qu'il y a plein de problèmes existants pour les gens qui travaillent sur la plateforme, les gens qui habitent à proximité. Pour qu'on soit sur les mobilités. Par exemple, les études multimodales qui ont été engagées, que le préfet a rendues publiques avec une synthèse, montrent qu'avec tous les projets de transport en commun qu'il y a, et même si on développait une nette amélioration des déplacements en train, avec un train TER amélioré ou RER ou service express métropolitain, on va vers une asphyxie des grands axes routiers, que de toute façon, la rocade sera saturée. Donc on n'a pas le choix, quelque part, de travailler sur les mobilités de manière différente et d'aller vers autre chose. Mais ça, c'est un débat qui a commencé et qui sera... Mais après, c'est un débat qui prend du temps.
Sur la biodiversité ou sur... Vous voulez ajouter quelque chose
d'abord ? Oui. Alors moi, je voulais faire un petit zoom sur la problématique du sol. Parce que c'est vrai que ça a été aussi au cœur de beaucoup des échanges et des débats. Alors... Le sol est une ressource finie, rare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la loi qui a instauré le zéro artificialisation net à 2050, ça veut dire quoi zéro artificialisation net ? Ça veut dire qu'on n'aura plus la possibilité de construire sur des terres agricoles ou de la pleine terre d'ici à 2050.
À moins de 2050. Renaturer.
Alors, à moins effectivement de process très techniques et souvent très compliqués à mettre en œuvre. Donc, le sol devient une ressource finie et rare. Et là, c'est vrai qu'au début des ateliers, on avait beaucoup, notamment d'élus, qui étaient dans le quasi-déni par rapport à cette loi, en disant « oui, mais ça nous met des bâtons dans les roues, nous, il faut qu'on accueille de la population, il faut qu'on puisse construire, il faut qu'on puisse développer les équipements, les routes ». Et sauf que nous, bah, enfin, on disait « oui, mais zéro artificialisation nette, hein, comment on fait ?» Bon, et là, il y a quand même eu une évolution sur les 10 jours, avec notamment dans le fameux pacte, futur pacte, sur lequel nous allons réfléchir pour envisager ou non la poursuite de notre présence dans cet atelier. Mais en tout cas, cet élément-là, il est maintenant pratiquement complètement intégré dans les enjeux et dans les engagements sur lesquels on va travailler. Donc voilà. Donc le sol en tant que tel, oui, ça devient en lui-même un sujet et une limite sur laquelle on ne peut pas jouer. C'est-à-dire que effectivement, si on continue à s'étaler, si on continue à construire, ça risque de mettre en péril la biodiversité, les problématiques liées au climat. Et tous les sujets qui sont autour, hein, bon, l'eau, etc., les transitions écologiques, la possibilité d'avoir des zones préservées, les îlots de chaleur en ville, etc., etc.
Et vous pensez que sans votre présence, la thématique n'aurait pas été abordée ou pas autant, en tout cas ?
Bon, alors, je ne vais pas dire que nos élus ne sont pas du tout au courant, mais honnêtement, je pense que, allez, on va dire dans 90% des cas, c'est nous qui avons mis le zoom, le projecteur sur ces sujets-là, et notamment le sujet du sol.
Je confirme.
Et la santé, c'est pareil. Et la santé, pareil.
Chantal.
Et la santé, pareil.
J'irais qu'on est allé même un tout petit peu plus loin, c'est qu'on a, enfin, en tous les cas, on l'a abordé, je ne sais pas si on a réussi à convaincre les gens. On leur a dit, depuis 50 ans, c'est l'aérien qui dicte sa loi à Toulouse. C'est-à-dire qu'on fait des plans d'exposition aux bris de plus en plus grands, etc. Parce que le trafic n'arrête pas de grossir, que les avions qui sont construits sont de plus en plus gros, et donc on a des plans qui viennent rejoindre les populations. Et on a dit, ben, maintenant c'est fini. La population, elle est là, elle souffre du bruit, les dernières enquêtes vous le prouvent, etc. Maintenant c'est fini. Maintenant, c'est la loi du sol. Et là, je reprends ton idée, effectivement. Et c'est la loi du sol et des habitants, c'est-à-dire ceux qui sont installés là, ceux à qui on peut proposer parfois un changement de trajectoire. Ben, ça, c'est pas normal. Donc, on fait avec les réalités qu'on a, c'est-à-dire on garde les habitants où ils sont, on ne grossit pas le plan d'exposition au bruit, on met pas des personnes supplémentaires sous le couloir aérien, et on dit au trafic aérien... Et Coco, c'est à toi de te restreindre. C'est pas aux habitants à s'adapter à la croissance du trafic. Parce que ça les rend malades. Voilà. Bon, en fait, maintenant, c'est cette évolution-là. Je crois qu'on a essayé de faire passer. Et je dis pas qu'on a convaincu des gens. J'oserais pas le dire, mais peut-être quand même, puisque même le directeur de la DDT a dit « Ah oui, cette idée, elle est intéressante. »
C'est-à-dire qu'avant, on ne pouvait pas évoquer ces sujets-là.
Ben non, jusqu'à présent, c'était « on croit, on embellit, on grossit et le trafic aérien était toujours dans la croissance. » Et du coup, c'était les habitants qui devaient s'adapter. On doit empêcher les constructions, etc. Mais au bout d'un moment, comme il n'y a plus de trafic, eh bien, le plan d'exposition au bruit vient s'imposer sur des populations qui avaient le droit de s'installer légitimement autour puisque la construction était autorisée. Voilà. Donc finalement maintenant je trouve que c'est un tout petit peu plus sain quand même comme façon de voir. Maintenant il va y avoir encore un peu de travail.
Parce que le vol est encore long.
Ouais, un petit mot quand même parce que au-delà des discussions qu'on a eues sur des aspects liés à la santé des riverains et tout ça, il y a effectivement deux sujets qui travaillent beaucoup les élus des collectifs, des communes. Riveraine de l'aéroport, on en a parlé, c'est la question de la ZAN, hein, de ce principe de zone d'artificialisation
zéro
artificialisation nette, qui était un des enfants de la loi climat d'ailleurs, hein, etc. Et où les élus, peut-être à juste titre, le maire de Cornebarieux n'arrêtait pas de dire, mais moi je veux bien, mais on me demande d'accueillir dans le cadre de la métropole des milliers de nouveaux habitants par an et tout, comment je fais ? Où est-ce que je peux les accueillir, dans quelles conditions, enfin, etc. On sentait un certain désarroi quand même, au-delà d'une opposition un peu primaire, il y avait quand même une vraie notion de désarroi des élus. Puis il y avait un deuxième désarroi qu'on a pu ressentir, c'est tout ce qui concerne les mobilités et les transports. Indéniablement, quand on s'est baladé en bus avec les élus le jour dans le nord de l'agglo, on a fait des voyages en bus, hein, des tours là et tout, et on avait eu le droit à tout. Hein, et bon, on sentait bien que les élus voulaient nous montrer ce que c'était que les déplacements. Ils pleuraient parce que ils disaient mais nous on n'est pas dans la métropole. Et donc on n'a pas accès au réseau de transport en commun. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce, les gens qui voudraient accéder à la zone aéroportuaire pour y travailler, pour tout, ne peuvent pas. De toute façon, on n'a pas de transport en commun, nous. On a 2 bus par jour qui passent du Conseil Général, et c'est tout ce qu'on a. Et c'est vrai que cette interrogation des élus sur la faiblesse des réseaux de transport en commun est tout à fait justifiée, pertinente, et demande des réponses. Il est évident que ce type de réponse à apporter à cette situation-là dépend aussi de la manière dont on prévoit le devenir de la zone aéroportuaire, et donc, une fois de plus, de la manière dont on pense qu'elle va ou non se développer dans les années qui viennent, à quel rythme et à quel niveau d'importance. Donc il y a des vrais problèmes qui sont posés quand même. C'est-à-dire que ce qu'on a ressenti, si vous voulez, au bout de 10 jours passés ensemble, hein, c'est un peu comme... On affine, et je pense que un nombre de participants ont un peu affiné le jugement qu'ils pouvaient, le regard qu'ils portaient sur nous, les associations, indéniablement, nous, on a aussi été un peu plus à l'écoute, hein, d'eux, parce que, au bout d'un moment, d'entendre les gens s'exprimer, c'était des élus locaux qui n'étaient pas tous des bourrins, hein, quand même, avec quelques-uns, un peu quand même. Bon, mais les grands absents, les gens qui n'ont pas fait de proposition, quand même, parce que les élus avaient des choses à dire en tant que maire de leur commune, etc. Mais il y a un certain nombre d'intervenants qui n'ont rien dit ou qui n'ont dit que des conneries. Moi, j'ai envie de le dire quand même. Mais non, là, c'est si. La CCI qui nous a accusés de vouloir tuer le tourisme. Vous êtes contre le développement de l'aviation et tout, vous voulez tuer le tourisme, c'est la deuxième secteur économique de Midi-Pyrénées. On nous a accusés vraiment de tous les maux. Le MEDEF, écoutez, franchement, je vais vous dire, le représentant du MEDEF, je me demande comment ça se fait qu'on est la 6e puissance industrielle du monde, quoi. J'ai quand même été un peu sceptique sur sa vista et sa capacité à penser le monde. Globalement, je dis ça, je vais pas plus loin dans tout, vous comprenez ce que je veux dire.
Et tu disais,
je serais plus direct en dehors du micro.
Tu disais le Césaire.
Le Césaire et le CODEM. Le Césaire et le CODEM. Les deux qui faisaient partie normalement du secteur de ce qu'on appelle la société civile, on les a pratiquement pas entendus de tout l'atelier. Alors que, quand même, le Césaire, le dénommé Chosy. Quand même, Chosy, qui est un bureaucrate de première, hein, je veux essayer d'enregistrer, je le pense, je le redis, il s'est permis quand même, la veille de la clôture de l'atelier des directeurs, de donner un interview à la Dépêche, où il a été interrogé par la Dépêche, comme si le Césaire avait été au cœur du processus, et comme si vraiment tout était passé par lui et par eux, et d'ailleurs ils proposent plein de choses, etc. On les a pas vus. Ils n'ont pas fait la bonne proposition un peu cohérente ou un peu pertinente et tout. C'est un peu lamentable. Et puis quant à la vista quand même des industriels, bon, il y avait Airbus et tout. Airbus, ils étaient là, ben, il fallait bien qu'ils y soient quand même, parce qu'on parlait de l'aéroport, ils sont bien concernés, quoi. Ils se sont surtout pas mouillés. On a eu le droit à la présence des gens qui s'occupent des relations institutionnelles d'Airbus. D'accord ? Donc, les commerciaux, au sens institutionnel du terme. Fort sympathique, je pense qu'ils nous ont pas tapé dessus, on est tout, mais voilà, petit éclairage. Après une de mes saillies lors d'un des échanges, sur une fois de plus, la problématique du devenir de la zone aéroportuaire en cas de décroissance du trafic aérien, il m'a dit « je peux déjeuner avec vous ce midi, enfin, etc., je me mets à votre table, je te fais plaisir, et tout ». Et il est venu vers moi et il m'a dit, mais de manière très sympathique, il m'a dit, monsieur Gassot, je comprends bien tout ce que vous êtes en train de vous dire. D'ailleurs, moi-même, j'ai des enfants. Enfin, vous voyez, le réchauffement climatique, ça m'interpelle. Mais moi, je vais vous dire, mon problème, c'est que j'ai 7200 avions à produire dans les années qui viennent. C'est mon problème. Voilà. Et je pense que tout était dit, quelque part. C'est-à-dire que le carnet de commandes, le fait qu'il faut produire les avions, je veux bien comprendre, hein, c'est aussi des milliers d'emplois qui sont en jeu, des tas de choses comme ça, mais il aurait pu ajouter, mais on s'interroge vraiment sur le fond, et l'après, ces 7200 avions à produire en qui viennent, qu'est-ce qui va se passer quand tout. À mon avis, il le savait, Airbus. qui va se passer derrière. Mais ils ne nous le diront pas,
forcément.
Mais c'est un autre débat, ça, qu'on pourra peut-être avoir pour la à l'occasion.
Pour la du coup, comme l'heure tourne et qu'il faut quand même donner un peu de temps à la salle pour que vous puissiez poser vos questions, qu'est-ce que ça a donné, cet atelier, après plusieurs mois de discussion? Ça a donné trois ambitions. Faire de la place aéroportuaire un territoire d'innovation environnementale, intégrer les plateformes aéroportuaires et aéronautiques dans les territoires voisins, je lis le résumé, et encourager le développement économique durable du territoire. Tout ça est décliné en 12 objectifs, en 7 chantiers et en 45 engagements. Bon, quand on lit comme ça, ça paraît un peu ce que ça paraît, hein, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, concrètement? Est-ce que vous êtes satisfait, en une minute, pour pouvoir passer aux questions de la salle, de ces conclusions?
Je ne sais pas, mon petit camarade, on en a discuté tout à l'heure. Tu m'as dit il y a plein de trucs et en fait, finalement, ils ont tenu compte de ce qu'on a dit.
Non, moi, j'ai effectivement noté par rapport à notre dernière réunion, hein, et la restitution finale. Nous avions fait des propositions complémentaires. On en avait fait 23 en tout. Et sur les 23, il y en a 15 qui ont été intégrés. Bon. J'allais dire, c'est mieux que si c'était zéro, quoi. Donc, alors certes, il y en a 7 qui n'ont pas été retenues, et il y en a une, c'est la fameuse instance, hein, qui va permettre de poursuivre le débat, qui
Est-ce
a été intégrée au document.
Deux exemples, un retenu et un pas retenu.
Alors, je vais essayer. Est-ce que...
Comme ça donne.
Je vais essayer. Alors, par exemple, bah oui, engagement numéro 3 sur... je vous lis l'engagement. Placer le sujet des traversées de Garonne, pont, barreaux routiers, passerelles mode doux en priorité. C'était la proposition. Et nous avions rajouté, donc le début de la phrase, en intégrant en priorité les impacts environnementaux au sol biodiversité. Ça n'avait pas été du tout intégré. Bon, c'est un exemple, par exemple.
Et ça, ils l'ont intégré.
Ça a été intégré, alors que ça n'y était pas. Alors, je vais essayer de vous en donner un autre. Alors, un significatif, on va dire.
Ça veut dire quand même qu'en 2023, on peut envisager des grosses infrastructures traversant un fleuve sans imaginer réfléchir à la problématique environnementale.
Oui, et surtout la Garonne, qui est quand même un vrai enjeu. Certes, pour le fleuve lui-même, mais aussi pour tout son environnement immédiat. Hein, les rives, la problématique du contenu, c'est-à-dire tout ce qui est la pisciculture, enfin pas la pisciculture, mais tout ce qui touche aux poissons, à la faune. Hein. Non, ça n'avait pas été.
Pas gardé, alors.
Alors, ce qu'ils n'ont pas gardé.
Un exemple,
alors,
parce que...
oui. Alors, ce qu'ils n'ont pas gardé, par exemple, c'était. Alors, nous avions comme engagement numéro 2 pour la pollution santé atteindre avant 2050 la neutralité du trafic et des installations aéroportaires et aéronautiques. Ça, c'était ce qui était proposé au début. Et ils ont rajouté, alors là, il y a eu les deux, il y a eu un rajout et une suppression. Ils ont rajouté, atteindre avant 2050 la décarbonation, donc plus la neutralité carbone, mais la décarbonation du trafic et des installations aéroportaires et aéronautiques, inclure, et ça, ça a été rajouté, inclure les effets non CO2 dans l'objectif de baisse des émissions globales. Donc ça, ça avait été rajouté. Mais on avait fait une proposition qui n'a pas été retenu, et je vous la lis, inscrire des objectifs chiffrés, je crois que c'est le PAN hein, d'ailleurs qui avait fait la... inscrire des objectifs chiffrés de baisse des émissions polluantes globales et décliner les objectifs par polluant à court, moyen et long terme. Ça n'a pas été retenu.
C'est dommage d'être contraignant.
Et voilà, et tout ce qui était un peu contraignant, c'est vrai, ça n'est pas passé. Mais voilà, donc... il y a quand même eu des éléments qui ont été intégrés.
Alors, moi, je veux juste... il y a des petites phrases un peu subtiles. Moi, je ne les comprends pas toujours tout à fait. Est-ce que vous comprenez tout à fait bien ce que c'est que de mettre en place une stratégie optimale de prise en compte des besoins des populations riveraines de l'aéroport? Alors, il y a quand même marqué repos, impact sanitaire, intégrant les enjeux économiques. Là, vous voyez, on touche quand même. Alors, c'est pas du Proust, hein, mais on touche à du lourd. Hein.
Voilà. C'est pas n'importe qui peut travailler hein,
là-dessus.
Dans le G40.
Voilà. Alors là, je dis, c'est dans le chantier santé, pollution, qualité de vie. Là, je suis un peu déçue quand même. Hein. Voilà. Mais on va raison garder. On y croit. Moi, je suis une optimiste. Vraiment. Donc, sinon, je ne serais pas là.
Juste, on a je ne sais plus si on l'a déjà dit, mais on a réussi quand même à garder un front commun au niveau des quatre associations qui sont présentes ici. On a gardé ce front commun du début à la fin.
Et ça les a surpris ?
Je pense que ça les a surpris, en tout cas avec ce niveau, j'allais dire, de profondeur dans notre solidarité. Parce qu'on aurait pu penser, même que dans les discussions, on aurait pu avoir des... Non, on a toujours gardé cette ligne et on a fait le point après chaque atelier pour se recaler et pour être cohérent et surtout essayer de peser. Parce que nous, on était les petits, quoi, hein, les petits, les invités de la dernière heure. Ils se connaissaient tous et nous, on connaissait personne ou pas grand monde. Hein. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'était très important pour nous de garder cette unité et on y est parvenu.
Même audio ? Une mémoire sonore ?